16h-18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, l'émission qui remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien. Et notre quotidien, c'est parfois les boîtes de conserve. David Castello-Lopez. Oui.
Souvent, on décide de donner aux rues le nom de quelqu'un. Mais on ne réfléchit pas forcément au fait que dans ces rues, il va se passer des choses. Et quand ces choses se passent, elles deviennent donc bizarrement attachées à la personne qui a donné son nom à la rue. Moi, la première fois que j'ai embrassé une fille, c'était rue de Tocqueville. Et donc pour moi, Tocqueville, c'est plus seulement un philosophe politique français du 19e siècle, c'est aussi un bisou avec la langue. Pigalle, c'était quand même un sculpteur français génial du 18e siècle, mais aujourd'hui, c'est surtout des sex shops. Alors ça, c'est cocasse.
Il n'y en a plus.
Il y en a moins.
Alors, il y en a toujours. Hein.
Il y en a quelques-uns.
Pas rue Jean-Baptiste Pigalle. D'ailleurs, non. Elle a changé de nom. Ouais. Elle s'appelle plus rue Pigalle, elle s'appelle Jean-Baptiste.
Oui, mais il y a la place Pigalle. Enfin, en tout cas,
autour de la place Pigalle sur le boulevard Rochechouart.
Il y a le sexodrome.
Pigalle, par exemple, Pigalle, c'est pas très associé aux institutions de l'État, par exemple. C'est plutôt associé.
C'est vrai, c'est vrai.
Mais parmi les choses qui peuvent arriver dans les rues, il y a aussi les tragédies. Copernic, c'est plus seulement un astronome polonais qui a compris que la Terre tournait autour du Soleil. C'est aussi un attentat à la bombe qui a tué 4 personnes dans la rue du même nom en 1980. Et les attentats de Charlie Hebdo en janvier 2015, ils sont liés pour l'éternité à un monsieur qui, avant cela, n'avait absolument rien à voir avec les caricatures de Mahomet et qui s'appelle Nicolas Appert. Sur la plaque bleue et verte de la rue à Paris, à côté de celle qui rend hommage aux victimes des attentats, on lit rue Nicolas Appert, 1749-1841, inventeur de la conserve alimentaire. Alors, comme super souvent dans l'histoire, la boîte de conserve, elle est née des besoins de la guerre. Il n'y a pas grand-chose qui motive davantage les gens à faire des trucs que la perspective de pouvoir botter le derche de l'ennemi. Là, on était à la fin du XVIIIe siècle, moment de rivalité très grande entre la France et tout le reste du monde, en gros. Et l'un des enjeux militaires majeurs de ce moment-là, c'était d'arriver à nourrir correctement les marins qui passaient des mois sur leur bateau, loin de toute source de nourriture fraîche. Et c'est là qu'est intervenu monsieur Nicolas Appert. Nicolas, c'était pas du tout un scientifique. Il avait fait aucune étude. Il a d'abord été cuisinier dans l'auberge de son père, puis chez une duchesse en Allemagne, puis dans une confiserie à Paris. Et pendant tout ce temps-là, il a fait des expériences pour essayer de trouver des façons de conserver la nourriture. Et il a découvert qu'en mettant de la viande ou des légumes ou d'autres trucs dans des bocaux en verre très épais, en faisant chauffer le tout longtemps, puis en fermant hermétiquement la bouteille, la nourriture se conservait pendant des mois. Mais ce qui est fou, c'est qu'il avait aucune idée de pourquoi ça marchait. Ça marchait, en fait, on le sait maintenant, parce que la chaleur tue les micro-organismes qui sont dans la nourriture et que l'hermétisme de la boîte empêche de nouveaux organismes de rentrer. Mais ça, on ne l'a compris que 50 ans plus tard avec Pasteur. Lui, il a juste dit, ça marche, allons-y, quoi. Alors que fondamentalement, il faisait quelque chose qui était très voisin de la pasteurisation 50 ans plus tard. En 1810, Nicolas, il a reçu un prix de l'État français pour son invention de 12 000 francs. 12 000 francs, à ce moment-là, c'était l'équivalent de 16 ans et demi de salaire d'un ouvrier. Si l'ouvrier travaillait 7 jours sur 7, ça peut avoir l'air pas si mal, mais les ouvriers étaient payés vraiment des misères, donc c'est pas non plus mirobolant. Dans les années qui ont suivi, la boîte de conserve, elle a nourri des milliers de militaires à travers le monde, sur des navires et ailleurs. C'est devenu à un moment quelque chose même de très chic, en particulier dans les colonies, parce que ça permettait de manger des blanquettes à Ouagadougou. Vous voyez, ce qui était quand même un truc assez chic. Et elle a fini par se démocratiser avec la Première Guerre mondiale, où ça faisait partie de la ration de tous les soldats dans les tranchées. Et enfin, elle a été, on peut le dire, légèrement ringardisée par les surgelés après la Seconde Guerre mondiale. Mais elle survit encore aujourd'hui avec des versions bon marché, hein, les cassoulets Rocklore ou William Sorin. Des versions chic aussi, avec la Comtesse du Barry, où c'est des boîtes de conserve à 40 balles. Et l'histoire de Nicolas, malheureusement, elle se termine un petit peu mal. Il y a un Anglais qui a repris son idée en remplaçant le verre par du métal. C'est pas strictement lui qui a dit. Le principe était le même. Il a représenté, il a fait le truc sous la forme d'une boîte de métal, ce qui est un peu celle qu'on a en tête aujourd'hui. Sauf que l'Anglais, lui, il a déposé un brevet et il a gagné de l'argent. Dans les années 1830, Nicolas, il a demandé au roi Louis-Philippe d'avoir la Légion d'honneur, mais elle lui a été refusée.
Oh non.
Et il est mort dans la pauvreté à l'âge de 91 ans.
Il faut faire quelque chose.
Enterré dans une fosse commune.
Oh non. Ça va trop loin.
Et même le nom de sa rue aujourd'hui, il évoque quelque chose de triste, vous voyez, donc c'est vraiment, c'est triste pour Nicolas Appert, quoi. Voilà.
Quelle lose.
Ouais. Oui, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que les 12 000 francs, il les a reçus, mais en échange, il a dû publier, donner gratuitement son invention au monde, en fait.
Et tout le monde a retenu, effectivement, la pasteurisation et pas l'apertisation,
très
alors c'est le même principe.
C'est un principe tout à fait...
De lui avoir redonné sa mémoire. Merci.
Je vous en prie.
Merci, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion, et sur le site europe1.fr.